cours de botanique systématique, niveau licence deuxième année. Ce cours est dispensé à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'AI, au sein du département des sciences agronomiques. Il est assuré par M. Kabé Inlibé Karka, docteur en biologie des organismes végétaux, spécialité physiologie végétale et biofertilisation des sols. Chapitre 1er. Aperçu sur l'organisation générale des végétaux. Introduction. Les récents progrès de la physiologie, de la biochimie et de l'écologie ont permis d'accéder à une connaissance approfondie du règne végétal et de fixer une limite plus précise entre le règne végétal et le règne animal. Pressé par la nécessité de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, l'homme a eu l'esprit d'identifier les êtres vivants qui l'entourent et d'assigner à chaque plante, à chaque animal, sa place dans la nature. Section première. La faculté de synthèse des végétaux. Pour se nourrir, les animaux doivent manger d'autres animaux ou des végétaux. On les appelle des hétérotrophes. Les végétaux, quant à eux, utilisent les sels minéraux du sol et le carbone de l'air. On les appelle des autotrophes, du grec auto qui signifie soi-même, et trophée qui signifie nourriture. Les végétaux, en particulier les chlorophylliens, c'est-à-dire les végétaux verts, constituent le support de toute vie animale. Ils sont capables de fabriquer des glucides grâce à l'énergie solaire, au dioxyde de carbone de l'atmosphère ou de l'eau, et à l'eau puisée dans le milieu. Au niveau des cellules végétales, cette faculté de synthèse se traduit par la présence d'organites particuliers appelés plastes, qui sont absents dans la cellule animale. La captation d'énergie solaire est rendue possible par des pigments assimilateurs, les chlorophylles, les plus connus et les plus répandus. Le mot chlorophylle vient du grec chloro, qui signifie vert, et phyllon, qui signifie feuille. La couleur verte des feuilles des végétaux chlorophylliens est due à la présence de ce pigment. C'est un caractère fondamental du monde végétal, qui permet de distinguer la frontière entre les deux règnes lorsque les caractères sont mal tranchés. Remarque importante. Ce caractère de présence de chlorophylle n'est pas absolu. Cultivés sur antibiotiques, les euglaines perdent irréversiblement leur chlorophylle et deviennent hétérotrophes, ressemblant alors au genre Atasia, classé parmi les animaux. Les bactéries et les champignons, devenus ultérieurement parasites ou saprophytes, du grec sapro qui signifie pourri et phyto qui signifie plante, vivant aux dépens des autres êtres vivants ou de leurs produits de dégradation, ont perdu secondairement leur chlorophylle. Certaines bactéries, bien que dépourvues de chlorophylle, sont autotrophes car elles tirent leur énergie de certaines réactions chimiques impliquant des composés comme le sulfure d'hydrogène ou des éléments ammoniacaux. On parle alors de chimiosynthèse. Section 2. La membrane squelettique de la cellule végétale. Un autre trait fondamental des végétaux est la présence autour de chaque cellule d'une paroi rigide de nature glucidique. Si l'on rencontre encore chez les algues des polymères du mannose et du xylose, chez les autres végétaux, c'est la cellulose qui est le constituant majeur de la paroi. Notons que la cellulose ne peut être digérée par le suc digestif sauf par la flore intestinale, comme Escherichia coli. Cette enveloppe rigide de cellulose empêche la cellule végétale de se déformer et de se mouvoir. Il en résulte l'immobilité et la fixation au sol de la plupart des plantes. La cellule végétale devient ainsi prisonnière de son milieu, de son habitat, ce qui oblige l'organisme végétal à une grande souplesse et une grande facilité d'adaptation, puisqu'il ne peut fuir les conditions défavorables. Il n'existe pas de cellule végétale mobile analogue aux lymphocytes des vertébrés, et lors de la formation de l'embryon, on n'observe aucun déplacement ou mouvement cellulaire caractéristique de l'embryon animal. Section 3. Les végétaux sont des organismes peu différenciés. Chez les animaux, on distingue en général des pattes, un corps, une tête. Les végétaux sont constitués des racines, organes cylindriques servant à la fixation, des tiges, également cylindriques, qui portent des feuilles ou lames aplaties, des fleurs. Mais aucun appareil respiratoire, aucun appareil circulatoire ne peut être valablement décrit. Chez les végétaux supérieurs, on distingue tout au plus un appareil conducteur de sève et des organes de réserve. Sous-section 1, la faible différenciation des organes végétaux. Cette faible différenciation pourrait être considérée comme une infériorité manifeste du règne végétal comparé aux animaux. Elle a cependant deux conséquences positives. D'une part, une grande plasticité de la plante à son environnement, et d'autre part, une grande facilité de régénération. La plasticité des végétaux est due au fait que l'individu réalise une construction continue d'éléments nouveaux dont les types sont limités, racines, tiges, feuilles et fleurs, dont les structures sont voisines et dont la forme et le rôle sont sans cesse accommodés aux conditions extérieures, notamment par l'intermédiaire des tropismes. La facilité de régénération est très remarquable chez les végétaux, car un simple fragment de tige, voire de feuille ou de racine dans certains cas, est capable de redonner un nouvel individu. La multiplication végétale, accidentelle ou assurée par des dispositifs spéciaux, est particulièrement répandue chez les végétaux, alors que chez les animaux, pour peu que l'on remonte dans l'échelle de classification, elle est exceptionnelle. Sous-section 2, la totipotence des cellules végétales. Les recherches sur les cultures de cellules isolées ont montré la totipotence de la cellule végétale qui, dans certaines conditions, est capable de régénérer une plante entière. Cette totipotence cellulaire s'accompagne d'une possibilité de multiplication indéfinie, mais aussi de régénération après les mutilations répétées qu'occasionnent les animaux herbivores. Grâce à ce mécanisme, les végétaux assurent le rôle de producteurs primaires dans la plupart des écosystèmes. La multiplication indéfinie est assurée par les cellules du méristème, zone qui assure la croissance des plantes. C'est ainsi que, contrairement aux animaux qui cessent de croître une fois adultes et ont une durée de vie limitée, vraisemblablement programmée dans leur génome, les végétaux ont une croissance indéfinie. Ce ne sont que les circonstances extérieures qui peuvent mettre fin à leur existence, par exemple l'ouragan qui abat un arbre, le gel ou l'épuisement consécutif à la fructification pour une herbacée monocarpique. Cette totipotence cellulaire explique également qu'il n'y ait pas de séparation des cellules sexuelles, à la différence des animaux où l'on distingue un soma et un germène. Conclusion du chapitre 1er. L'immobilité, la faible différenciation, l'importance de la multiplication végétative et la croissance indéfinie constituent une série de critères importants qui définissent et caractérisent notre monde végétal. Il nous appartient maintenant de préciser les ressemblances et les différences entre les végétaux, c'est-à-dire de les classer. Chapitre 2. Généralité sur la systématique des végétaux. Introduction. La systématique est une science dont le but est la classification des êtres vivants ou fossiles. Étant donné l'extrême complexité du système en vigueur, il est absolument impossible de donner une carte d'identité complète de chaque plante. La systématique a pour objectif d'identifier toutes sortes de plantes et d'animaux, et de les regrouper dans des combinaisons afin de faire ressortir leur rapport réel. Pour y parvenir, le botaniste systématique doit se servir de la morphologie pour étudier la forme et la structure des plantes, de l'écologie pour connaître les relations existantes entre les plantes et leur environnement, de la physiologie pour faire ressortir les exigences de la plante, de la génétique et de la cytologie pour connaître les informations relatives aux gènes, aux cellules et au nombre de chromosomes, et enfin de la biochimie pour identifier les substances particulières. Section première, les grands groupes végétaux. Les végétaux primitifs contiennent des individus unicellulaires dépourvus de véritables noyaux. Les cyanophytes ou cyanophycées, parfois encore appelés algues bleues. Les cyanobactéries sont des procaryotes photosynthétiques. Par opposition aux végétaux pluricellulaires typiques comme les chromophytes ou algues brunes, les diatomées, les rhodophytes ou algues rouges, les chlorophytes ou algues vertes, qui sont des eucaryotes autotrophes unicellulaires ou pluricellulaires, avec dans ce cas un appareil végétatif très diversifié sous forme de thalles, parfaitement adapté au milieu aquatique. Certains de ces végétaux primitifs ont perdu leur pigment assimilateur et sont devenus secondairement saprophytes ou parasites. Ils se sont adaptés au milieu terrestre très humide ou au milieu interne d'autres végétaux. Ils constituent le groupe des champignons. Une curieuse association symbiotique est réalisée par la réunion très précise d'une algue et d'un champignon. Ce sont les lichens. Bien que tributaires d'un milieu humide, ils ont un habitat terrestre. Chez ces groupes de plantes inférieures, les cellules ne sont pas groupées en de véritables tissus. L'appareil végétatif est formé d'un thalle, du grec thallo qui signifie rameau aplati. Ces plantes forment un ensemble végétal appelé les thallophytes. Les bryophytes ou mousses sont les premières plantes vraiment adaptées au milieu terrestre. Mais elles n'ont ni racines ni vaisseaux conducteurs de sève. Elles se fixent par des thalles mais ont un axe feuillé. Le stade d'acquisition des racines, tiges et feuilles est atteint par les ptéridophytes ou fougères, les préspermaphytes et les spermaphytes. Ce sont des plantes vasculaires ou trachéophytes. Les mousses, fougères, préspermaphytes et spermaphytes forment les plantes supérieures ou plantes terrestres évoluées. On les appelle aussi cormophytes ou embryophytes, car après la fécondation, il se développe une embryogenèse aboutissant à la formation du sporophyte. Les phénomènes de reproduction se traduisent chez les spermaphytes par des structures facilement observables comme les cônes des conifères ou les fleurs des angiospermes. On les appelle donc phanérogames, du grec phanero qui signifie visible, et gamo qui signifie mariage. Les autres végétaux vasculaires comme les ptéridophytes, ou non vasculaires comme les algues, champignons et lichens, sont appelés cryptogames, du grec crypto qui signifie caché. Section 2. Embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Les groupes distingués correspondent à des lignées évolutives différentes. On tente de classer le règne végétal en catégories hiérarchisées. Les grandes divisions sont nommées embranchements, ou phylum. Les embranchements se subdivisent en classe, ordre, famille, genre et espèce, éventuellement en sous-embranchements, sous-classe, sous-ordre. Les diverses unités de la classification sont appelées taxons, le pluriel étant taxa. Voici un exemple concret. L'embranchement des spermaphytes se subdivise en sous-embranchements des gymnospermes et des angiospermes. Les angiospermes se scindent en classe des monocotylédones, également appelés liliopsidés, et des dicotylédones, également appelés magnoliopsidés. La classe des dicotylédones comprend trois sous-classes. Les apétales, dont les pétales sont absents, les dialipétales, dont les pétales sont libres, et les gamopétales, dont les pétales sont soudés. Pour savoir à quel niveau de subdivision l'on se trouve, des terminaisons particulières ont été fixées. Les embranchements se terminent généralement par le terme phyte, comme dans spermaphyte, pteridophyte, bryophyte. Les classes se terminent par idée, comme dans magnoliopsidée. Les ordres se terminent par elle, comme dans rosale, fabale. Les familles se terminent par ACE en système français, ou ACA en système international latinisé. Les sous-familles se terminent par OIDE ou ADE, les tribus par et ou AE, et les sous-tribus par INE ou INEE. Prenons l'exemple de la pomme de terre. Son nom d'espèce est Solanum tuberosum. Elle appartient au règne végétal, à l'embranchement des spermaphytes, au sous-embranchement des angiospermes, à la classe des magnoliopsidés ou dicotylédones, à l'ordre des solanales, à la famille des solanacées et au genre Solanum. Le qualificatif spécifique tuberosum fait référence au tubercule que donne la plante. Il faut noter qu'un certain nombre d'anciens noms de famille ne provenaient pas des genres et étaient utilisés par les anciens botanistes. Aujourd'hui, on tend à les renommer à partir des genres. Par exemple, les graminées sont devenues les poacées, du genre pois. Les crucifères, dont les pétales étaient disposés en croix, sont devenus les brassicacées du genre brassica. Les papilionacées ou légumineuses sont devenues les fabacées du genre faba. Les composées, dont l'inflorescence est composée de nombreuses fleurs, sont devenues les astéracées. Les labiées sont devenues les lamiacées. Et les ombellifères, dont les fleurs sont en ombelles, sont devenues les apiacées. Section 3. La nomenclature ou dénomination des taxons. La nomenclature est une branche de la botanique dont le but est de donner à chaque plante, sauvage ou cultivée, un nom scientifique universellement utilisé. La nomenclature botanique actuellement en vigueur est celle imaginée par un botaniste suédois, Carl von Linné, né en 1707 et décédé en 1778. On l'appelle nomenclature linnéenne ou binaire. Cette nomenclature attribue à chaque plante un nom scientifique latinisé composé de deux mots. Le premier désigne le genre ou nom générique de la plante, et le second est appelé épithète ou qualificatif spécifique. Ces deux mots réunis forment le nom de l'espèce. Le nom du genre s'écrit avec une majuscule en première lettre, et le qualificatif entièrement en minuscule. Ce nom scientifique est suivi par l'initiale du nom de l'auteur qui a décrit la plante pour la première fois. Dans une publication scientifique, tous les noms de plantes sont écrits en italique ou soulignés. Voici quelques exemples. Mangifera indica L, qui désigne le manguier de la famille des Anacardiacées. Borassus ethiopum L, qui désigne le palmier rognier. Phénix dactylifera L, qui désigne le palmier dattier. Les règles de dénomination ont été arrêtées par le Congrès international de la nomenclature botanique et consignées sous forme de code, revues tous les 4 ans lors de congrès. L'épithète peut rappeler l'origine géographique du premier spécimen, comme dans Acacia sénégal. Il peut être conçu pour rappeler l'habitat de l'espèce, comme dans Eriosma montanum. Il peut être basé sur l'usage de la plante, comme dans Witania somnifera, qui signifie « fait dormir », ou encore Crossopteryx febrifuga, qui signifie « calme la fièvre ». Il peut être utilisé pour rendre hommage à une personne, comme dans Albizia chevalieri, nommé en l'honneur du professeur Auguste Chevalier. Il peut faire allusion à l'appellation locale, comme dans Cassia thora, où thora est une appellation indienne. Parfois la détermination d'une plante peut aller jusqu'à l'identification de la variété. C'est ce qu'on appelle la dénomination trinomiale. Dans le cas d'une variété de culture, ou cultivar, on remplace le terme variété par cultivar, abrégé CV. Lorsqu'une espèce se trouve avec deux noms différents, le plus récent est validé et le plus ancien est mis en synonymie. Conclusion du chapitre 2. Le raisonnement de la taxonomie biologique inclut le besoin de comprendre la nature qui nous entoure, de conceptualiser à travers une classification, d'utiliser la nomenclature pour identifier et communiquer, de mettre sur pied un système d'information convenable, d'utiliser un nom stable et enfin de construire une plateforme utile pour comprendre les relations phylogénétiques. La taxonomie a une utilisation spéciale concernant la conservation et fournit des références utiles pour la conservation de la biodiversité. En résumé, toutes les espèces végétales connues ou nouvelles appartiennent à l'une de ces grandes catégories. Les plantes supérieures ou cormophytes, comprenant les spermaphytes avec d'un côté les angiospermes, divisés en dicotylédones et monocotylédones, et de l'autre les gymnospermes, ainsi que les ptéridophytes. Les plantes intermédiaires comprennent les bryophytes, qui affectionnent les biotopes humides. Enfin, les plantes inférieures ou talophytes regroupent les algues eucaryotes, les champignons, et l'association symbiotique entre l'algue et le champignon qui donne les lichens. Chapitre 3. Embranchement des talophytes. Les talophytes comprennent trois grands groupes. Les algues, les champignons et les lichens. Section première. Les algues. Les algues sont des organismes végétaux essentiellement aquatiques. Leur appareil végétatif est un thal plus ou moins organisé. Elles peuvent être unicellulaires ou pluricellulaires. Concernant la reproduction des algues, la reproduction asexuée se fait par la formation de spores. Une spore est une cellule isolée ou une formation pluricellulaire pouvant assurer la dissémination d'une espèce. La reproduction sexuée se fait dans la plupart des cas en milieu aquatique. Elle met en jeu des cellules reproductrices ou gamètes qui peuvent être simples ou différenciées. Les phénomènes de reproduction marquent en général la fin d'une génération gamétophyte, c'est-à-dire à un chromosome, et le début d'une nouvelle génération dite sporophytique, à deux N chromosomes, qui génèrent des spores. Concernant la forme des cellules sexuelles, les cellules mâles et femelles sont très semblables dans le cas de l'isogamie, chez les espèces primitives, et différentes dans le cas de l'hétérogamie, chez les espèces plus évoluées. Chez d'autres groupes, les gamètes femelles immobiles sont portées sur le thal et les gamètes mâles nagent vers l'oosphère. C'est l'oogamie. Dans certains groupes, les cellules reproductrices sont incluses dans des cellules sexuelles qui se rapprochent et forment un tube de conjugaison précédant la fécondation. On parle de cryptogamie. La classification des algues distingue trois lignées évolutives principales. Premièrement, les chromophytes, c'est-à-dire les algues brunes et les diatomées. Ces organismes appartiennent à la lignée brune et possèdent des cellules portant des chloroplastes à quatre membranes. On connaît environ 1500 espèces d'algues brunes pluricellulaires, rencontrées presque exclusivement dans les eaux marines. Les plus grandes peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Les diatomées sont des algues brunes unicellulaires microscopiques enfermées dans un exosquelette formé de deux valves de nature siliceuse appelées frustules. Deuxièmement, les rhodophytes ou algues rouges. Ce groupe appartient à la lignée verte et possède des cellules à chloroplastes à deux membranes. Ce sont des algues de profondeur pouvant aller jusqu'à une centaine de mètres. Dans leur plaste existe la phycobiline, pigment rouge qui masque la chlorophylle. On connaît près de 6000 espèces d'algues rouges, surtout dans les eaux marines tropicales chaudes. Troisièmement, les chlorophytes ou algues vertes. Ce groupe appartient à la lignée verte et au clade des chlorobiontes, qui possèdent la chlorophylle A et B ainsi que de l'amidon dans des plastes. On dénombre 1700 espèces. Essentiellement aquatiques mais pouvant être rencontrées en milieu aérien humide. L'intérêt des algues est multiple. Par le mécanisme de la photosynthèse, elles libèrent une grande quantité d'oxygène. Elles sont à la base de nombreuses chaînes alimentaires aquatiques et entrent dans l'alimentation humaine, comme la spiruline. Certaines algues calcaires sont utilisées en chirurgie osseuse. Les algues sont très utilisées en industries agroalimentaires, en cosmétiques, en fabrication de gélose pour les cultures bactériennes et comme remède contre la constipation. Elles produisent des polysaccharides utilisés comme épaississants, gélifiants et stabilisants en industrie. Section 2. Les champignons ou mycophytes. Appelés aussi mycètes ou fungi, les champignons représentent 10 à 15% des êtres vivants. Ils sont apparentés aux végétaux par leur mode de vie fixé et sont hétérotrophes, c'est-à-dire incapables d'assimiler le dioxyde de carbone de l'air pour produire des glucides. Les champignons sont dépourvus de systèmes radiculaires et s'alimentent en eau, en sels minéraux et en matières organiques par toute la surface de leur appareil végétatif défini comme un thal. Les champignons supérieurs forment une association symbiotique avec les racines des plantes, appelées mycorhizes. Il existe un grand nombre de champignons microscopiques dits inférieurs, dont beaucoup sont parasites des végétaux et des animaux. Les champignons inférieurs, ou moisissures, comprennent les levures très utiles pour la fabrication du pain et de la bière. L'appareil végétatif des champignons est un thalle ramifié formé de filaments d'environ 10 micromètres de diamètre, appelé hyphes. L'ensemble des hyphes constitue une structure plus ou moins dense formant un feutrage appelé mycélium. Le mycélium peut se développer sur de nombreux substrats où il provoque respectivement des chancres, des nécroses ou des pourritures. Concernant la reproduction des champignons, la reproduction asexuée se fait par la production de spores microscopiques qui germent dans des conditions favorables et donnent chacune un hyphe se ramifiant pour former un mycélium. Se différencient ensuite des spores non sexuées, appelées conidies, chargées d'assurer la dissémination du champignon. La reproduction sexuée se fait par la production de spores sexuées à l'intérieur ou à l'extérieur d'organes spécialisés, les asques et les basides, qui forment ensemble une couche fertile très mince appelée hyménium. Le mode de formation des spores sexuées permet de distinguer deux classes. Les ascomycètes, chez lesquels les spores se forment à l'intérieur d'une cellule appelée asque, et les basidiomycètes, chez lesquels les spores sont formées à l'extérieur de cellules en forme de massue appelée baside. Les spores ainsi formées sont des basidiospores et sont au nombre de 2 à 4 par baside. Section 3. Les lichens. Un lichen est en fait une association symbiotique très précise entre une algue et un champignon. L'algue assure l'alimentation carbonée grâce à son pigment assimilateur qui réalise la photosynthèse, tandis que le champignon fournit un support grâce au feutrage de filaments et évite la déshydratation par apport minéral. L'appareil végétatif se présente sous forme de thalle, ce qui signifie qu'il n'y a pas de tissu organisé. Les filaments du champignon, appelés hyphes, et les cellules de l'algue ou de la cyanobactérie sont simplement en contact. Concernant la multiplication, seul le champignon peut se multiplier par voie sexuée grâce à la production de spores qui donnent des hyphes. Si ceux-ci retrouvent un partenaire compatible, ils peuvent redonner un lichen, sinon ils continuent leur cycle en tant que champignon. Les lichens se multiplient de façon importante par voie végétative. Un fragment contenant les deux partenaires peut se détacher d'un thalle plus ancien et donner un nouveau lichen. On peut classer les lichens en 5 groupes suivant la forme de leur thalle. Les lichens crustacés ont un thalle incrusté sur le support comme des murs ou des rochers, et plus de 80% des lichens appartiennent à cette catégorie. Les lichens foliacés ont un thalle formé de lames plus ou moins lobées et plus ou moins libres du support. Les lichens fruticuleux ont un thalle redressé et ramifié, d'aspect arborescent. Les lichens filamenteux ont un thalle formé d'un enchevêtrement de filaments plus ou moins longs et pendants. Les lichens gélatineux sont riches en cyanobactéries et prennent une consistance gélatineuse en présence d'humidité. L'intérêt des lichens est multiple. Ils sont consommés en grande quantité par les herbivores dans le Grand Nord arctique. Ils sont utilisés comme colorants pour la teinture de tartan traditionnelle en Écosse. Des espèces corticoles permettent d'extraire des huiles essentielles qui entrent dans la composition de certains parfums. Leur teneur en acide usnique leur confère une certaine activité antibactérienne en pharmacie. Ce sont des accumulateurs de métaux lourds et de radioéléments. Ils sont utilisés comme bio-indicateurs de la pollution atmosphérique. Chapitre 4. Embranchement des bryophytes. Introduction. Les bryophytes, du grec bryon qui signifie mousse et phyton qui signifie plante, appartiennent aux chlorobiontes, c'est-à-dire qu'ils possèdent de la chlorophylle A et B ainsi que de l'amidon dans leur plaste. Ils font partie des embryophytes, chez lesquels on trouve un embryon pluricellulaire donnant des tissus différents. Ils sont intermédiaires entre les thallophytes et les trachéophytes, c'est-à-dire les plantes possédant des tissus conducteurs. Ils vivent dans le milieu humide et servent d'intermédiaire entre la vie aquatique et la vie terrestre. On les divise en 3 grands groupes, les bryophytes au sens strict ou mousse, les marchantiophytes ou hépatiques, et les entocérophytes. Section première, appareil végétatif. Les mousses vivent en société, de préférence sur des sols humides. Chaque pied de mousse comporte un axe feuillé, composé d'une tige et de feuilles, ainsi qu'une partie basale munie de rhizoïdes. Il ne s'agit pas de vraies feuilles car elles ne comportent pas de tissu conducteur. La ramification de la tige est dichotomique, c'est-à-dire qu'elle se divise en 2 branches. Section 2. La reproduction. La reproduction végétative est très importante, soit par dispersion de fragments se détachant d'un individu, appelé protonéma, et donnant de nouveaux individus, soit par la formation de structures spécialisées appelées propagules, produisant de petits massifs cellulaires appelés gémules, qui donnent aussi naissance à de nouveaux individus. La reproduction sexuée met en jeu des gamètes. Les antéridies, qui produisent les gamètes mâles, et les archégones, qui portent les gamètes femelles, sont présents soit sur des pieds différents, soit sur le même pied. L'organe femelle ou archégone est en forme de bouteille, avec une base renflée et une partie allongée appelée le col. Les antéridies, à maturité, libèrent des entérozoïdes biciliés, c'est-à-dire les gamètes mâles. Ces derniers nagent en direction des archégones, à condition qu'il y ait suffisamment d'eau, guidée par un gradient chimique dû à la libération de molécules attractives. La fécondation de l'oosphère par l'entérozoïde produit un zygote à 2N chromosomes. Ce zygote donne par mitose un sporophyte. À maturité, le sporophyte présente trois parties, le pied, la soie et la capsule ou sporange. Au niveau des capsules se déroule une méiose, c'est-à-dire une réduction chromatique, permettant de former des spores à N chromosomes. Les spores germent dans des conditions favorables pour donner un protonéma, premier filament ramifié, sur lequel apparaissent ensuite des bourgeons donnant naissance à de nouvelles plantes feuillées. Section 3, classification des bryophytes. On a identifié près de 20 000 espèces de bryophytes, classées en trois groupes. Premièrement, les bryophytes au sens strict ou mousse, avec plus de 10 000 espèces. On distingue trois classes, les sphagnales, dont le genre Sphagnum a un gamétophyte dépourvu de rhizoïde et absorbe par toute la surface de sa tige et de ses feuilles. Les andréales comptent deux genres et une centaine d'espèces, souvent appelées mousses de granit. Les bryales ou vraies mousses comptent environ 10 000 espèces, rencontrées le plus souvent en milieu humide. Deuxièmement, les marchantiophytes ou hépatiques, avec plus de 9 000 espèces. Le nom hépatique vient de la ressemblance du thal de certaines espèces avec les lobes du foie. Le genre le plus connu est Marchantia, dont les ramifications sont dichotomiques. Troisièmement, les anthocérophytes, avec une centaine d'espèces. Le sporophyte ressemble à une corne de quelques centimètres de long et possède une cuticule et de vrais stomates, ce qui prouve la proximité phylogénétique des anthocérophytes avec les plantes vasculaires. Section 4, l'utilisation des bryophytes. Les bryophytes ont peu d'utilisation directe mais sont des plantes extrêmement importantes pour la biodiversité et pour le maintien de certains équilibres de la biosphère. Elles stockent l'eau, de 10 à 20 fois leur poids sec chez les sphaignes, et régularisent son utilisation pour les autres plantes. Elles colonisent les lieux arides et, en se décomposant, contribuent à la formation d'une première couche d'humus. Les sphaignes vivent en colonies, pourrissent par leur base, et leurs débris constituent des épaisseurs à l'origine des tourbières qui occupent plus d'1% des terres émergées. La tourbe est utilisée pour le chauffage. De nombreuses espèces sont sensibles aux variations des facteurs environnementaux et se comportent comme des bio-indicateurs de la pollution de l'atmosphère et des eaux douces. Chapitre 5. Embranchement des ptéridophytes, ou cryptogames vasculaires, également appelés fougères. Introduction. Il y a 500 millions d'années apparaissent les premières plantes ptéridophytes, du grec ptéri qui signifie fougère et phyton qui signifie plante. Ce sont les premières plantes vasculaires ou trachéophytes, présentant trois types d'organes, racines, tiges et feuilles, mais dépourvues de vaisseaux conducteurs de sève très différenciés. Elles ne présentent pas encore de fleurs. La synthèse de lignine, substance imprégnant la paroi cellulosique, les rend plus rigides et résistantes. Le cycle de reproduction est caractérisé par l'alternance de deux générations indépendantes, le gamétophyte, organisme haploïde à N chromosomes, et le sporophyte, organisme diploïde à 2N chromosomes. Le sporophyte est indépendant du gamétophyte et la phase correspondant au sporophyte devient dominante, contrairement aux mousses où la phase gamétophytique domine. Section première. Appareil végétatif. L'appareil végétatif des ptéridophytes, qui correspond à la phase sporophytique, est de forme et de taille extrêmement variables. On trouve des plantes de quelques centimètres de haut, terrestres ou aquatiques, jusqu'à des plantes arborescentes de plus de 20 mètres. La capacité de synthétiser la lignine permet le port dressé et la forme arborescente. L'appareil végétatif possède en général de vraies racines, des feuilles et de vrais stomates. Le bois ou xylème est formé de cellules conductrices particulières appelées trachéides scalariformes, allongées, à parois cellulosiques imprégnées de lignine avec des perforations disposées en barreaux d'échelle. Si l'on examine la fougère appelée polypode, l'appareil souterrain est constitué d'un rhizome, c'est-à-dire une tige souterraine horizontale, portant un ensemble de racines adventives. L'appareil aérien est formé de feuilles longuement pétiolées. Les feuilles peuvent être de grande taille et pourvues de plusieurs vaisseaux conducteurs. Elles sont dites mégaphiles. Comme chez le polypode. Les microphylles sont de petite taille et parcourus par un seul vaisseau conducteur, comme chez la prêle. Section 2. Cycle de reproduction. La reproduction sexuée s'effectue ainsi. Au printemps, les segments foliaires produisent des sporanges, regroupés en sorts disposés le plus souvent à la face inférieure des feuilles. C'est au niveau des sporanges qu'a lieu la méiose, permettant la formation des spores à N chromosomes. L'éclatement des sporanges libère des spores qui germent sur le sol pour donner des lames feuillées de petite taille cordiforme d'environ 1 cm de diamètre, appelées protales, qui constituent le gamétophyte. En présence d'eau, les gamètes mâles ou entérozoïdes nagent vers le gamète femelle ou oosphère. La fécondation donne un œuf ou zygote à 2 N chromosomes qui constituent le point de départ d'un nouveau sporophyte. Le sporophyte se différencie, une racine lui permet de devenir autonome, et le gamétophyte disparaît rapidement. À la différence des bryophytes, il y a ici une nette dominance du sporophyte. La présence indispensable de l'eau pour le déplacement des gamètes est un caractère fondamental commun aux mousses et aux fougères. La reproduction asexuée comprend le marcottage naturel, c'est-à-dire la possibilité pour des végétaux de produire des plantules à partir d'une partie de plante, la multiplication par des stolons, c'est-à-dire des rameaux à croissance horizontale, et la multiplication par drageons, c'est-à-dire des bourgeons portés par des racines traçantes souterraines. Section 3. Classification des ptéridophytes. On distingue plusieurs groupes principaux. Les rhignophytes représentent les plantes vasculaires les plus anciennes, uniquement fossiles, connues du Silurien, il y a 425 millions d'années, et disparues au Dévonien moyen, il y a 380 millions d'années. Les lycophytes ou lycopodiophytes, présents à l'ère primaire sous forme d'arbres de grande taille. La forme ligneuse a donné naissance aux gisements de charbon. Elles sont représentées aujourd'hui par environ 1200 espèces, toutes herbacées. Les psilophytes, qui comprennent deux genres, psilotome et tmesipteri. Les échizétophytes ou prêles. Enfin les filicinées ou vraies fougères, dont les frondes sont pourvues de plusieurs nervures et prennent naissance sur un rhizome. Quelques genres notables, Marsilea, Salvinia, Polypodium, Pteridium, Osmunda. Section 4, importance et utilisation des ptéridophytes. Bien moins utilisés que les plantes à fleurs, les ptéridophytes ont malgré tout connu différents usages. Le charbon, ou houille noire, utilisé à grande échelle, provient d'immenses quantités de ptéridophytes fossiles du Carbonifère, enfouis dans des conditions permettant leur transformation au cours des âges. En raison de leur forte teneur en silice, les prêles sont considérées en phytothérapie comme des plantes reminéralisantes et aussi utilisées pour le polissage. La fougère mâle est utilisée contre les vers parasites en médecine vétérinaire et humaine. De très nombreuses espèces de ptéridophytes sont utilisées en horticulture. Chapitre 6. Embranchement des spermaphytes. Section 1. Généralité sur les spermaphytes, ou phanérogames. Contrairement aux bryophytes et aux ptéridophytes qui vivent dans l'eau, les spermaphytes sont des végétaux très spécialisés à la vie aérienne. Les feuilles sporangifères portant les organes mâles sont appelées étamines, et les feuilles sporangifères portant les organes femelles sont appelées carpelles. Elles sont incorporées dans un ensemble reproducteur contracté appelé la fleur. Les étamines produisent des microspores ou grains de pollen dont le contenu correspond aux gamétophytes mâles très réduits. Les spermaphytes sont divisés en deux grands groupes ou sous-embranchements. Les gymnospermes, plantes à ovules nus, et les angiospermes, plantes à ovules couverts. Chez les gymnospermes, l'ovule est nu sur le carpelle étalé. Chez les angiospermes, une protection supplémentaire intervient. Les carpelles entourent complètement l'ovule qui se trouve dans une cavité close, l'ovaire. La fécondation des gymnospermes primitifs, comme les cicaces et les gingkos, fait encore intervenir des spermatozoïdes avec flagelles locomoteurs, c'est la zoïdogamie. À partir des gymnospermes évolués comme le pin et le sapin, le pollen germe et produit un tube pollinique qui chemine jusqu'à l'ovule, c'est la siphonogamie. Section 2. Sous-embranchement des gymnospermes. Sous-section 1. Caractères généraux. Les gymnospermes sont des plantes à ovules nus, non protégées par un carpelle. Ce sont pour la plupart des arbres de grande taille qui occupent une place importante dans la flore actuelle. Leur origine est très ancienne, remontant au Dévonien, avec une expansion considérable au Tria et au Crétacé. Les gymnospermes constituent un groupe intermédiaire entre les ptéridophytes et les angiospermes. Sous-section 2, les cycadophytes ou mégaphyllinées. Les cycadophytes, ou classe des cycadées, sont des plantes dioïques, c'est-à-dire que le pied femelle et le pied mâle sont distincts. Elles sont souvent confondues avec les palmiers. Elles sont originaires des régions tropicales et subtropicales. Les ovules sont portés par des feuilles fertiles appelées mégasporophylles. Les grains de pollen ou microspores sont formés dans des microsporanges, appelés sacs polliniques, portés par des écailles réunies en cônes. On compte environ 300 espèces réparties en deux familles. La famille des Amiacées compte environ 200 espèces. La famille des Cycadacées compte une trentaine d'espèces du seul genre Cycas. Leur intérêt est principalement ornemental. La moelle et les ovules fécondés de certains cicas sont riches en amidon et sont consommés dans certaines régions. Sous-section 3, les gingophytes. Les gingophytes forment un groupe très ancien, présent depuis le Permien inférieur, il y a moins de 270 millions d'années. Ce sont des arbres dioïques à croissance lente pouvant dépasser une trentaine de mètres de haut et vivre plusieurs siècles. Leurs feuilles caduques sont en éventail avec une nervation typiquement dichotomique. La pollinisation est anémophile, c'est-à-dire assurée par le vent. Les gingophytes ne sont représentés de nos jours que par une seule famille, les gingoacées, formés d'un seul genre, Gingko, lui-même constitué d'une seule espèce, Gingko biloba. L'arbre est largement utilisé pour son intérêt historique et botanique. Ses feuilles très décoratives ont un intérêt ornemental. Il résiste remarquablement à la pollution et même aux radiations. Ses feuilles très riches en diterpènes et en biflavonoïdes sont utilisées comme antioxydants et toniques cérébraux en industrie pharmaceutique. Sous-section 4. Les coniférophytes ou microphyllinés, également appelés résineux. Ce sont des plantes ligneuses à axes dressés, se fixant au sol par un puissant système racinaire. La croissance est largement influencée par les conditions environnementales. Les feuilles se présentent soit sous forme d'écailles, soit d'aiguilles. La plupart des conifères possèdent des canaux à résine. Le bois est dit homoxylé, formé de trachéides. Concernant leur reproduction, les deux sexes sont présents le plus souvent sur le même individu. Les organes reproducteurs sont sous forme de cônes. Les cônes mâles, nombreux et de petite taille, portent des sacs polliniques dans lesquels les cellules mères subissent une méiose pour donner des grains de pollen. Les cônes femelles, peu nombreux, plus volumineux, portent des écailles ovulifères. Le grain de pollen germe et émet un tube pollinique transportant les deux gamètes mâles jusqu'à un archégone. C'est la siphonogamie, différente de la zoïdogamie des cicas et du gingko. L'un des deux gamètes mâles féconde l'oosphère, l'autre. Degener. Il se forme une graine, qui est un organe de vie ralenti contenant l'embryon et des réserves permettant son démarrage lorsque les conditions extérieures sont favorables. La classification des coniférophytes comprend plusieurs familles. Les pinacées ou abietacées comptent plus de 200 espèces regroupées en 11 genres, parmi lesquels les genres Pinus, Picea, Abi, Larix et Cedrus. Les araucariacées sont des arbres résineux originaires d'Amérique du Sud et d'Australasie. Les cupressacées comptent 25 genres et 400 espèces, dont les cyprès du genre Cupressus, les genévriers du genre Junipru et les thuyas du genre Thuya. Les taxacées comptent 6 genres et 30 espèces, dont le genre Taxus, Live d'Europe. Les coniférophytes sont largement utilisés en horticulture, en construction grâce à leur bois résistant, en ameublement, en pharmacie grâce à leur richesse en composés terpéniques et flavonoïdes, et en alimentation humaine. Sous-section 5. Les gnétophytes ou chlamydospermes. Les gnétophytes constituent la classe la plus évoluée des gymnospermes, intermédiaire entre gymnospermes et angiospermes. Ce sont des plantes ligneuses dioïques. Leurs appareils de reproduction ressemblent à des fleurs réduites, appelées pseudofleurs. La pollinisation est soit anémophile, soit entomophile grâce à la production de nectar. Leur principale caractéristique évolutive est la présence d'une double fécondation, bien que différente de celle des angiospermes. Les gnétophytes ne comportent que trois familles et environ 70 espèces. La famille des gnétacées, la famille des éphédracées et la famille des welwitschiers. Section 3. Sous-embranchement des angiospermes. Sous-section 1. Caractères généraux. Les angiospermes, apparus vers la fin du Jurassique, représentent actuellement la grande majorité des plantes terrestres. Elles sont réparties en 300 à 400 familles comprenant environ 200 000 espèces. La caractéristique principale des angiospermes est d'avoir des ovules protégés situés dans un ovaire clos. Le grain de pollen doit germer sur une partie spéciale du carpelle appelée stigmate. Les organes reproducteurs se regroupent le plus souvent en fleurs bisexuées et possèdent des organes stériles, le périanthe composé du calice et de la corolle, et des organes fertiles, les androcées et gynécées. La double fécondation est un trait essentiel des angiospermes. Un premier gamète mâle fusionne avec l'oosphère pour donner l'embryon, et l'autre fusionne avec les deux noyaux du centre pour donner l'albumen, tissu de réserve des graines. On distingue trois types de développement selon la durée de vie. Les plantes annuelles, dont la durée de vie est inférieure à une année, les plantes bisannuelles, dont le cycle de développement s'étale sur 2 ans et qui ne fleurissent qu'en deuxième année, et les plantes vivaces, dont la durée de vie est très longue. Le sous-embranchement des angiospermes se subdivise en 2 classes. La classe des monocotylédones ou liliopsidés, et la classe des dicotylédones ou magnoliopsidés. Sous-section 2, la classe des monocotylédones. Les monocotylédones sont caractérisés par la présence d'un seul cotylédon. Les fleurs sont de type trimère avec 3 tépales internes, 3 tépales externes, 3 et 3 étamines, et 3 carpelles. Les feuilles sont en général simples à nervures parallèles, souvent pourvues d'une gaine entourant une tige non ramifiée. Le port est herbacé, excepté les palmiers. Il n'y a pas de formation secondaire. On observe des racines adventives de type fasciculé et des organes souterrains permanents comme les bulbes, rhizomes et tubercules. Les monocotylédones archaïques comprennent la sous-classe des Alismatida, avec des espèces primitives à caractère séparé et habitat aquatique, notamment la famille des Alismataceae et la famille des Aracées, qui compte environ 2 à 4000. Espèces de plantes vivaces et herbacées, souvent ornementales, parfois comestibles comme le taro. Les monocotylédones typiques comprennent la sous-classe des Comelinidae avec environ 15 000 espèces, notamment la famille des Comelinacées, la famille des Cyperacées comptant environ 4 000 espèces, et la famille des Poacées comptant plus de 10 000 espèces, cosmopolites, à tiges creuses avec nœuds et entre nœuds appelés chaumes. Les Poacées comprennent les céréales panifiables comme le blé, le sorgho, l'avoine, le riz, le maïs et le mil, ainsi que de nombreuses espèces fourragères. La sous-classe des Ingibéridés comprend environ 3800 espèces, notamment la famille des Ingibéracées avec 1500 espèces dont le genre Curcuma fournissant la curcumine, le genre Zingibé ou gingembre, et la famille des Musacées comprenant le bananier. La famille des Broméliacées renferme près de 2000 espèces, dont l'ananas. La sous-classe des Liliidés représente le taxon central des monocotylédones. Elle comprend notamment la famille des Liliacées avec près de 8000 espèces, incluant les lys, les asperges et les tulipes. Les Aliacées comptent 800 espèces dont l'ail, l'oignon et le poireau. Les Iridacées comprennent plus de 1800 espèces dont les iris et le safran. Les Amaryllidacées regroupent les narcisses et jonquilles. Les Orchidacées constituent une immense famille d'environ 20 000 espèces regroupées en 500 genres, parmi les plus évoluées des monocotylédones. Elles présentent un grand intérêt ornemental. La sous-classe des Aracées comprend notamment la famille des Palmacées ou Aracacées comptant environ 4000 espèces. Le tronc est appelé stipe. Les palmes sont des caractéristiques des paysages tropicaux. Parmi les genres importants, on trouve Phénix dactylifra, le palmier dattier, dont le fruit est une baie monosperme très riche en sucre. Coco nucifra, le cocotier, dont le fruit est une drupe dont le noyau est la noix de coco. Et Elaea guineensis, le palmier à huile, dont la pulpe fournit une huile très utilisée dans l'industrie agroalimentaire. Sous-section 3, la classe des dicotylédones. Les dicotylédones se distinguent par plusieurs traits caractéristiques. L'embryon renferme deux cotylédons. Le système racinaire est pivotant. Les faisceaux conducteurs des tiges sont disposés sur un cercle. Les feuilles ont des nervures généralement ramifiées et une nervation réticulée largement représentée. Il y a mise en place d'un cambium et production de bois hétéroxylé. La fleur est fondamentalement du type pentamère, avec 5 sépales, 5 pétales, 5 et 5 étamines et 5 carpelles, ou plus rarement du type tétramère. Le port est herbacé ou ligneux. On divise les dicotylédones en 3 sous-classes selon que les pétales manquent, sont libres ou soudés entre eux. Premièrement, la sous-classe des apétales, dans laquelle les pétales sont absents. Cette sous-classe comprend plusieurs séries. La série des apétales unisexués comprend l'ordre des amantifères, dont les fleurs sont groupées en chatons, notamment les salicacées avec les saules et les peupliers, les bétulacées, corylacées et fagacées comprenant le châtaignier, le chêne et le noyer. L'ordre des urticales réunit les apétales à fleurs unisexuées généralement pollinisées par le vent, comprenant les moracées avec les mûriers et les figuiers, les urticacées avec les orties, et les canabacées avec le houblon et le chanvre. L'ordre des santalales comprend des espèces tropicales et parasites, dont le gui du genre Viscum, hémiparasites poussant sur les branches de divers arbres. Les cariophyllales comptent 11 000 espèces regroupées en 29 familles, comprenant les amaranthacées, les cariophyllacées, les polygonacées, les cactacées et les chénopodiacées dont la betterave. Deuxièmement, la sous-classe des dialipétales, qui comprend les dicotylédona. Pétales libres, subdivisés en 3 séries. La série des thalamiflores comprend des plantes à réceptacle floral bombé avec des pièces florales primitivement nombreuses et disposées en spirale. Le taxon des dialicarpiques comprend les familles des Magnoliacées avec le genre Magnolia, les Anonacées avec des espèces tropicales à fruits comestibles comme l'Ananas senegalensis ou goyavier sauvage, et les Lauracées comprenant l'avocat. Les Renonculacées sont pour la plupart ornementales mais toxiques. La série des Dicyflores se caractérise par la présence d'un disque nectarifère sur le réceptacle floral attirant les insectes pollinisateurs. Elle comprend notamment l'ordre des Rutales et la famille des Rutacées avec environ 700 espèces dont les agrumes comme le citronnier, l'oranger, le mandarinier et le pamploussier. La famille des Meliacées comprend des arbustes et arbres tropicaux dont Kaya senegalensis, l'acajou du Sénégal. Les Anacardiacées comprennent le manguier et l'anacardier. La série des Calyciflores comprend l'ordre des Rosales avec la famille des Rosacées comptant 3000 espèces comprenant les fraisiers, les rosiers, les poiriers, les pommiers, les pruniers et les cerisiers. L'ordre des Fabales ou légumineuses compte 13000 espèces réparties en trois familles. Les Mimosacées avec les Mimosas et Acacias, les Césalpiniacées avec les Cassias et Tamarindus, et les Papilionacées ou Fabacées avec les fèves, haricots, soja, niébé et trèfle. Les légumineuses ont la particularité de porter sur leurs racines des nodosités, renflements causés par des bactéries du genre Rhizobium fixatrice d'azote de l'air. L'ordre des Myrtales comprend la famille des Myrtacées avec les Eucalyptus, les Girofliers et les Combretacées. L'ordre des Ombellifères ou Apiales est la famille la plus évoluée des Dialipétales, avec la carotte et le persil appartenant aux Apiacées, famille très homogène identifiable à ses inflorescences en ombelles. Troisièmement, la sous-classe des Gamopétales, qui sont des dicotylédones à pétales soudés entre eux. La Gamopétalie assure une meilleure protection des parties reproductrices et une meilleure adaptation à un type déterminé d'insectes pollinisateurs. Ce sont les plus évolués des plantes à fleurs. On distingue les Gamopétales pentacycliques superovariés, comprenant notamment l'ordre des Solanales avec les Solanacées incluant la tomate, la pomme de terre et le piment, et les Convolvulacées. On distingue aussi les Gamopétales tétracycliques, comprenant l'ordre des Gentianales, l'ordre des Lamiales avec les Lamiacées ou labiées comprenant la lavande, la sauge et la menthe, et les Oléacées comprenant l'olivier et le jasmin. Enfin, les Gamopétales tétracycliques inférovariés comprennent les Rubiacées avec le caféier du genre Coffea, et les Astéracées ou composés représentant l'apogée des angiospermes. Section 4. Les angiospermes et l'homme. Depuis la nuit des temps, les plantes à fleurs et l'homme ont une longue histoire commune. L'homme a utilisé les végétaux pour se nourrir, se vêtir, s'abriter et se soigner. Premièrement, les angiospermes dans l'alimentation. Parmi les plantes non transformées, on trouve le maïs, l'yam et des poacées, la céréale la plus cultivée dans le monde. Le riz, Oryza sativa, dont le fruit est un akène de type caryopse riche en amidon, cultivé principalement en Chine, en Inde et en Indonésie. Le blé, Triticum sp, dont l'espèce la plus cultivée est le blé tendre utilisé en boulangerie, et le blé dur réservé à la fabrication des pâtes. La pomme de terre, Solanum tuberosum, dont on consomme les tubercules riches en amidon. L'igname, Dioscorea sp, dont les tubercules pouvant peser plusieurs dizaines de kilogrammes sont très consommés en Afrique après cuisson. Le manioc, Manio esculenta, très riche en amidon et constituant un aliment majeur des régions tropicales. La patate douce, Ipomea batata, très cultivée et consommée en Chine. Parmi les extraits de plantes, le sucre est extrait de deux plantes. La canne à sucre, Saccharum officinarum des Poacées, grande plante tropicale de 2 à 6 mètres de haut dont le Brésil est le premier producteur mondial. La betterave sucrière, Betta vulgari des Amarantacées, cultivée dans les régions à climat atlantique dont la France est le premier producteur de l'Union européenne. L'amidon est un polyoxyde qui est la principale molécule de stockage du glucose par les végétaux. Il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie chimique. Parmi les plantes boissons, on trouve le thé, Camellia sinensis des Théacées, obtenu par infusion des feuilles d'un arbre originaire d'Extrême-Orient, dont la Chine et l'Inde sont les deux principaux producteurs. Le cacao, Tobroma cacao des Malvacées, petit arbre tropical dont les graines, les fèves, servent à la fabrication du chocolat. La bière, boisson fermentée préparée à partir d'orge germée, le malt, de houblon et d'eau. Le vin, boisson alcoolisée obtenue par fermentation des bailles de la vigne, Vitivinifera des Vitacées. Parmi les plantes à huile, le palmier à huile, et la Aeguineensis des Arecacées, dont la pulpe fournit l'huile de palme très utilisée dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Le soja, Glycine max des Fabacées, originaire d'Asie du Sud-Est. Le colza, Brassica napu des Brassicacées. Le tournesol, Helianthus annuus des Astéracées, originaire d'Amérique du Sud. L'olivier, Olea europaea des Oléacées, caractéristique du climat méditerranéen. L'arachide, Arachiipogaea defabacée, dont les graines, les cacahuètes, sont très utilisées dans la cuisine africaine et asiatique. Parmi les plantes condiments et épices, on utilise diverses parties des plantes. Les parties souterraines comme le curcuma et le gingembre en rhizome, l'ail et l'oignon en bulbe. Les parties aériennes comme la cannelle en écorce, le laurier en feuilles, le basilic, la sauge, la menthe, le thym et le romarin appartenant aux lamiacées. La coriandre, le fenouil et le persil appartenant aux apiacées. La fleur comme les câpres et les clous de girofle en boutons floraux, ou le safran avec les stigmates du crocus sativus. Les fruits comme le poivre obtenu à partir des fruits du genre piper, et le piment appartenant au genre capsicum des solanacées. Les graines de nombreuses apiacées comme l'aneth, l'anis, le carvi, le fenouil et la coriandre. Deuxièmement, les plantes textiles. Le coton, du genre gossypium des malvacées, est formé de longues fibres de cellulose pure entourant les graines des cotonniers. La Chine est le premier producteur mondial, suivi des États-Unis puis de l'Inde. Le chanvre, cannabis sativa des cannabacées, sert à la fabrication de textiles et de papier, mais aussi d'huile, de plastique biodégradable, de cosmétiques et d'isolants phoniques. Le lin, Linum usitatissimum des linacées, petite plante herbacée annuelle à fleurs bleues, dont la France est le premier producteur de fibres. D'autres plantes sont également utilisées pour la confection de cordages ou de textiles. L'alfa ou sport, le jute, le capoquier ou fromager, la ramie ou ortie de Chine, le raffia originaire de Madagascar, et le sisal originaire du Mexique. Troisièmement, les plantes tinctoriales. L'homme utilise des colorants d'origine végétale pour teindre les textiles, mais aussi pour la peinture et la calligraphie. Pour le rouge, une source principale a été le rhizome de la garance, Rubia tinctorum. Pour le bleu clair, le pastel, Isatis tinctoria des brassicacées européens. Pour le bleu indigo, les feuilles macérées de l'indigotier, Indigofra tinctoria des fabacées. Pour le jaune, la gaude, Rosda luteola, les stigmates de safran, Crocus sativus, ou les racines du curcuma, appelées safran des Indes. Quatrièmement, les plantes industrielles. Le tabac, Nicotiana tabacum des solanacées, grande plante herbacée dont on utilise les feuilles après séchage. Le caoutchouc naturel est obtenu principalement à partir du latex de l'Evea, Evea brasiliensis des euphorbiacées, qui donne les meilleurs rendements. La Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie assurent plus des trois quarts de la production mondiale. Cinquièmement, les plantes pharmaceutiques. Les plantes sont directement ou indirectement à l'origine de la majorité des médicaments. Parmi les plus importantes, on trouve l'armoise annuelle, Artemisia annua des astéracées, qui contient de l'artémisinine utilisée contre le paludisme. Les digitales du genre Digitalis des plantaginacées, dont on extrait des hétérosides cardiotoniques. Le pavot somnifère, papaver somniferum des papaveracées, très riche en alcaloïdes dont la morphine, extraite du latex appelé opium. Les solanacées comme la belladone et le datura, utilisées pour fournir l'atropine, la scopolamine et la yosiamine, trois alcaloïdes très utilisés en thérapeutique mais très toxiques. Conclusion générale du cours. Nous voici arrivés au terme de ce cours de botanique systématique. Vous avez pu parcourir l'ensemble du règne végétal, depuis les organismes les plus simples et les plus primitifs jusqu'aux plantes à fleurs les plus évoluées. Ce cours vous a permis de comprendre les traits fondamentaux qui caractérisent les végétaux par rapport aux animaux, notamment la faculté de synthèse photosynthétique, la paroi cellulosique et la totipotence cellulaire. Vous avez ensuite découvert les principes de la systématique et de la nomenclature, qui permettent de nommer, classer et communiquer sur le monde végétal avec une rigueur scientifique universelle. Vous avez exploré les grands embranchements successifs, des talophytes aux spermaphytes, en comprenant les innovations évolutives majeures à chaque étape, l'adaptation au milieu terrestre, l'apparition des vaisseaux conducteurs, la formation des graines, puis des fruits et des fleurs. Enfin, vous avez mesuré l'importance considérable des angiospermes dans la vie de l'homme, qu'il s'agisse de l'alimentation, des textiles, des colorants, de l'industrie ou de la médecine. Ces connaissances constituent la base indispensable à tout étudiant en sciences agronomiques ou en biologie végétale.